France Inter.
Bonsoir. Dans le temps d'emporte l'histoire aujourd'hui, Boris Pasternak et son combat pour le docteur Jivago. Jusqu'en 1956, Boris Pasternak, poète adulé des Russes, apprécié même de Staline, traducteur reconnu, aurait pu continuer à vivre en paix dans sa belle datcha de Peredelkino, parmi les privilégiés du régime. Mais en 1956, cette paix allait bientôt voler en éclats. Un an plus tôt, Pasternak a terminé son unique roman, Le docteur Jivago, l'œuvre de sa vie, fresque magistrale de la Russie du début du XXe siècle, roman d'amour et roman éminemment humaniste. Désespérant de le voir publié, l'écrivain confie son manuscrit à un éditeur italien. « Vous êtes convié à mon exécution », lui dit-il. Car ce geste, Pasternak le sait, constitue le début d'une guerre avec le pouvoir soviétique dont il a peu de chances de sortir vainqueur. Une guerre dont le paroxysme sera en 1958 l'attribution à Pasternak du Nobel de littérature. Calomnie, insulte, persécution, rien ne sera épargné à l'écrivain. Mais le docteur Jivago, lui, vivra sa vie de par le monde, toujours moderne, vibrant, libre.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Hélène Henry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante chercheuse honoraire à l'Université Paris-Sorbonne, critique littéraire et traductrice de littérature russe. Vous avez traduit entre autres Nabokov, Tsvetaïeva, Pasternak donc. Je suis très heureuse de vous recevoir dans cette émission. Vous connaissez très bien le docteur Jivago, vous le connaissez de l'intérieur je dirais, puisque c'est vous qui avez établi la dernière traduction en français chez Gallimard. Le roman était paru pour la première fois en français en 1958, donc l'année du Nobel de Pasternak. C'était, j'imagine, un grand défi, un grand bonheur de se voir confier cette tâche.
Certainement. C'était même un tel défi que j'ai commencé par refuser. D'abord parce que la première traduction est fort bonne. Et ensuite parce que je savais que c'était quasiment une gageure de reprendre cet immense roman et d'en faire quelque chose en français.
Un immense roman, vous le dites, Hélène Henry. Comment pourrait-on le décrire, docteur Jivago ? D'abord son sujet et ensuite son style. De quoi il s'agit ? C'est une fresque de la Russie Révolution ?
C'est une fresque de la Russie, c'est un bilan à la fois d'un siècle et un bilan de 50 années d'écriture littéraire qui ont été celles de Pasternak, d'écriture littéraire et de lutte sourde ou ouverte avec un pouvoir toujours discuté. Alors, le docteur Jivago met au centre d'une histoire un personnage, le docteur Jivago.
Yuri Jivago.
Voilà, qui a quelque chose de Pasternak lui-même. Il y a une donnée autobiographique au centre de ce livre. Mais il y a aussi tout un monde qui est celui de la Russie depuis 1905,
la première révolution.
Jusqu'à 1953, c'est-à-dire l'année de la mort de Staline. Mais Pasternak fait mourir son héros en 29. C'est-à-dire que les années staliniennes ne sont pas présentes dans le livre, ce qui est important.
Oui, c'est assez subtil.
Donc c'est un peu un livre qui se recentre autour de la présence d'un personnage présenté de l'intérieur, au temps de la Révolution et dans les conséquences de la Révolution.
Quelle a été la vie de Pasternak jusqu'à 1956 ? Donc c'était d'abord un poète
oui, ça a été dans l'enfance et l'adolescence et la jeunesse une vie très heureuse. Pasternak est d'une famille de la bourgeoisie juive aisée et très cultivé, fils d'un peintre moscovite, ami de Tolstoï. Enfin, c'était véritablement une espèce de vie multiple, de vie qui promettait beaucoup.
Et comment a-t-il vécu la Révolution ?
Alors, Pasternak a d'abord, est entré d'abord en musique, ensuite il est entré en poésie, et il est entré en poésie avant la Révolution, mais c'est la Révolution de bolchevique, la Révolution 1917, qui a fait exploser son talent. C'est-à-dire que, à l'origine de l'œuvre de Pasternak, et il y en a les échos dans Jivago, il y a une passerelle avec Jivago, Pasternak a écrit ce très grand livre, Ma sœur, la vie, dont le sous-titre est Été 1917. Alors, ce livre, c'est un des plus grands livres de poésie que nous ait donné la langue et la culture russe.
La poésie est très importante dans la culture russe.
La poésie est très importante. La poésie, avec tout ce qu'elle comporte de musique, de rattachement aussi à la tradition populaire et historique de la pays. Alors, c'est un bas sur la vie. C'est simplement une célébration, une espèce d'action de grâce, de célébration d'un moment exceptionnel. À un moment où Pasternak, qui se trouve dans le sud de la Russie, du côté de Saratov, à la fois est immensément amoureux, immensément, désireux d'écrire, et où il voit éclater, exploser autour de lui, durant cet été, un été brûlant absolument, il voit éclater cette révolution dont il attend tout.
Pasternak a tout de même été un écrivain surveillé dès les années 30.
C'est compliqué. Pasternak est quelqu'un, qui procède par fulgurances successives. Il y a eu la fulgurance 1917, il y a eu une fulgurance en 1932 quand il a rencontré sa deuxième femme, Zinaïda, et où il a essayé d'adhérer au régime dans son évolution.
Mais après, il s'est mis en retrait.
Il a accepté le régime stalinien au point d'être célébré comme le premier poète. Il y avait le grand chef Staline, et puis le premier poète qui était à la fois l'opposant, celui qui parle franc, et en même temps, quelqu'un qui... Mais à partir de 1935, c'est là où il a commencé
à se mettre
se mettre en retrait, et de plus en plus en retrait.
Merci Hélène Henry. Je propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Partons en URSS en 1956. Tout de suite, Boris Pasternak et le combat pour le docteur Jivago, un texte de Marc Elfer, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet.
Pas un mot. Aucun commentaire, aucune réponse. Cela fait plus de 6 mois qu'ils ont reçu mon roman. Un silence assourdissant. Les rédacteurs de Novimir et de Znamia ont sûrement reçu des directives du comité central. Tous ces chiens de garde de l'orthodoxie communiste, ces bureaucrates de la littérature sont répugnants. Je ne supporte plus leur lâcheté. Leur soumission avilissante. J'ai porté Jivago en moi 10 ans. J'y ai mis toute mon encre et toutes mes larmes. Je voulais être honnête avec moi-même, écrire quelque chose de grand, quelque chose de vrai. Ce roman est la seule de mes œuvres dont je n'ai pas honte. 10 ans. 10 ans pour rien. On raconte depuis la mort de Staline que l'Union soviétique a changé. Le dégel, quelle blague. Les forces des ténèbres sont toujours là. Les années de terreur sont loin d'être finies. C'est une évidence. Pour rien au monde, ils ne publieront mon roman.
20 mai 1956. Chemise blanche, blouse bleue de travail, cheveux grisonnants, visage allongé, lèvres sensuelles, Boris Pasternak est en train de bêcher le jardin de sa datcha dans la colonie des écrivains de Peredelkino, à 30 km de Moscou. Âgé de 66 ans, Pasternak, célébré en URSS comme l'un des plus grands poètes soviétiques, vit dans ce village fondé par Staline pour récompenser les auteurs éminents du pays. Le poète a terminé de rédiger, il y a moins d'un an, son œuvre la plus personnelle, Le docteur Jivago, un roman d'amour qui évoque tous les événements de la Révolution russe. Il a envoyé son manuscrit à 3 éditeurs qui ne lui ont toujours pas répondu.
Scusi, je suis bien rue Pavlenko, c'est la villa numéro 3.
Oui.
Vous êtes Boris Pasternak ?
Oui, c'est moi.
Bonjour.
Vous désirez ?
Je m'appelle Sergio D'Angelo.
Vous êtes italien ?
Oui.
Je suis journaliste à Radio Moscou et je représente également une maison d'édition. Dites, cette femme là-bas, elle a l'air de nous surveiller.
Venez, on se rend plus tranquille à l'intérieur. Asseyez-vous. Vous disiez travailler pour une maison d'édition ?
Oui. Je suis l'agent de la maison d'édition Feltrinelli Editore, à Milan. Tenez, j'ai avec moi l'autobiographie de Nehru, premier ministre de l'Inde, que nous venons de publier.
Feltrinelli Editore. Non, je ne connais pas.
Gian Giacomo Feltrinelli est l'héritier d'une des familles les plus riches d'Italie, mais c'est un fervent communiste. Il voudrait publier des auteurs soviétiques, et j'ai pensé à votre docteur Jivago.
Mais qui vous a parlé de mon roman ?
Une dépêche à Radio Moscou a annoncé sa publication imminente.
Sa publication imminente ? Vous plaisantez ?
Non, pourquoi ?
Mon roman n'est pas vraiment à la gloire de la Révolution. Je ne crois pas qu'il sera publié en URSS.
Vous savez, avec le dégel, les choses changent. Il y a un vent nouveau. Les discours de Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline sont la promesse, l'espoir de notre socialisme. Tout semble possible aujourd'hui.
Ces promesses ne valent rien. Le paradis socialiste peut du jour au lendemain se transformer en enfer. J'ai perdu toutes mes illusions envers ce régime depuis longtemps.
Si la dépêche de Radio Moscou parlait de votre livre, c'est qu'il va sûrement être publié. En tout cas, notre maison d'édition souhaiterait le faire.
Le publier à l'étranger ? Selon nos règles, la publication d'une œuvre à l'étranger avant sa sortie en Union soviétique est interdite. Je pourrais avoir des ennuis.
Alors nous attendrons l'édition soviétique pour le publier en Italie ?
Faut esquiver d'attendre longtemps. Mais j'aimerais réfléchir à votre proposition. Pouvez-vous revenir en fin d'après-midi ?
Mais je dois être prudent. Est-ce que je peux vraiment faire confiance à cet Italien ? Il est très naïf. Il n'a pas du tout l'air de comprendre que si je lui donne mon manuscrit, je signe mon arrêt de mort. On m'accusera de trahison. Je risque de finir les mains liées dans la prison de la Loubianka, de crever de faim dans un camp de rééducation, ou pire encore. Pourtant, je n'ai pas le choix. C'est peut-être l'unique occasion de faire publier Jivago. Que vais-je dire à Olga ? Olia, mon amour, j'ai bien peur de nous mettre encore en danger.
Alors, qu'avez-vous décidé ?
J'ai écrit le docteur Jivago pour qu'il soit lu, pas pour le cacher. Je veux qu'il soit publié. Votre maison d'édition peut-elle le distribuer en France et en Angleterre ?
Bien sûr. Feltrinelli Editore se fera un plaisir de s'occuper des droits internationaux.
Dans ce cas, c'est d'accord, je vous donne mon livre. Je vais chercher le manuscrit. Voici le docteur Jivago. Puisse-t-il faire le tour du monde ?
Le manuscrit est très épais.
Presque 700 pages. Ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes, les chevaux, les rafales de vent. Les passants s'écartaient pour laisser passer le cortège, comptaient les couronnes, se signaient. Les curieux se joignaient à la procession, demandaient « Qui enterre-t-on ? » On leur répondait « Jivago ».
C'est magnifique.
Ce roman, c'est ma plus belle œuvre lyrique. Mes personnages, Yuri Jivago, Lara Guichard et Strelnikov, sont dans la lignée des grands héros tchékoviens. Vous verrez comment la Révolution a détruit leur vie.
J'ai hâte de le lire. Je dois rencontrer Gian Giacomo à Berlin dans quelques jours. Je vous tiens au courant.
Ciao, monsieur D'Angelo. Voilà. Vous êtes convié à mon exécution.
Dans la soirée, le poète retrouve sa maîtresse, Olga Ivinskaya, dans un pavillon à quelques minutes de marche de Peredelkino. Depuis 10 ans, Pasternak mène une double vie. Marié à la pianiste Zinaïda Neuhaus, il vit un amour interdit avec sa muse, Olga, de 22 ans sa cadette, qui lui a inspiré le personnage de Lara, l'amante du héros de son livre, Yuri Jivago. Cette ancienne rédactrice de la revue Novimir a déjà payé très cher sa liaison avec Pasternak. En 1949,
la police secrète, qui suspectait l'auteur d'écrire un roman contre le régime, avait arrêté Olga. N'osant pas s'en prendre directement au poète préféré de Staline, la police décida de le punir par l'intermédiaire de sa maîtresse. Condamné à 5 ans de travaux forcés pour intimité avec une personne soupçonnée d'espionnage, Olga fut envoyée dans la colonie pénitentiaire de Potma, en Mordovie. Libérée en 1953 après la mort de Staline, Olga Ivinskaya a repris sa vie auprès de Pasternak. Elle est devenue sa collaboratrice et son agent littéraire.
Boré, j'ai de bonnes nouvelles. Les éditions Gaslititzat m'ont confirmé qu'elles allaient publier un recueil de tes poésies. Novemir parle aussi de publier des extraits de Jivago.
Olga, moi aussi, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai reçu la visite d'un Italien. Il représente une maison d'édition en Italie. Ils veulent publier le docteur Jivago. Je lui ai donné mon manuscrit.
Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as remis ton manuscrit à un inconnu ? Un étranger ? Mais t'as complètement perdu la tête !
Olia !
Tu te rappelles ce qui est arrivé à Boris Pilniak en faisant publier son roman à Berlin ? Tu veux finir comme lui ? Une balle dans la nuque ?
Olia, calme-toi !
T'es irresponsable ! T'as pensé aux conséquences ?
Je suis prêt à assumer toutes les conséquences du moment que mon roman est publié.
Mais ces gens sont des monstres. T'as oublié ce qu'ils m'ont fait ?
Olia, ma chérie, Jivago est trop important. Il doit être publié, ce qui m'arrivera après est secondaire.
Et moi ? T'as pensé à moi ? Je te préviens, je veux pas retourner à Potma. Je les connais, ils vont pas te laisser faire.
24 août 1956. Le KGB alerte le Kremlin que Boris Pasternak a signé un contrat avec un éditeur italien et s'apprête à faire publier le docteur Jivago à l'Ouest. Une semaine plus tard, Dimitri Polikarpov, le responsable de la section culturelle du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, rédige un rapport sur ce livre, le qualifiant de pamphlet haineux contre l'idéologie marxiste et la lutte révolutionnaire. Polikarpov, qui veut à tout prix empêcher la publication du roman à l'étranger, a convoqué Boris Pasternak et Olga Ivinskaya dans son bureau.
Boris Leonidovitch n'est pas avec vous, Olga ?
Non, il est souffrant.
Votre ami nous a mis dans une situation délicate. Hein ? Qu'est-ce qui lui a pris ? Signer un contrat à l'étranger, il veut quoi ? De l'argent ? Provoquer un scandale ?
Vous savez, Boris Leonidovitch est un poète. Il a la tête dans les nuages. C'est un enfant, il n'a aucune notion des frontières.
Ce Feltrinelli, il doit vous rendre impérativement le manuscrit.
Je doute fort qu'il accepte. Feltrinelli nous a dit que le roman était un chef-d'œuvre, que ce serait un crime contre la culture de ne pas le publier.
Trouvez une solution. Réglez-moi ce problème rapidement.
La seule solution est de publier le docteur Jivago avant les Italiens.
Mais nous allons le faire.
Tous les éditeurs ont le manuscrit, depuis 1 an. Il ne semble pas très emballé.
Je vois. Un instant. Allô ? Allô, Anatoly ? Oui, Dimitri Polikarpov à l'appareil. Je vous appelle au sujet du docteur Jivago de notre ami Pasternak. Les éditions Gosslitisdat vont le publier. Ce roman est trop long, il faudra le raccourcir. Pouvez-vous trouver un rédacteur afin d'améliorer certains passages ? C'est parfait. Vous aurez bientôt la visite de l'agent de Pasternak. Spasiba, Anatoly.
Le directeur de Gosslitisdat, Anatoly Kotov, vous obéit au doigt et à l'œil. C'est impressionnant.
Maintenant, récupérez-moi ce manuscrit.
Polikarpov ment. C'est une manœuvre, il veut juste récupérer le manuscrit et empêcher Feltrinelli de le publier. Continuons à marcher, tu veux bien ? Je t'assure que Gosslitisdat ne publiera jamais mon roman, même remanié.
J'aurais vu sa tête quand je lui ai dit que ce serait un crime contre la culture de ne pas publier Jivago. Il est devenu rouge comme une tomate.
Un vrai communiste.
Sérieusement, que comptes-tu faire, Boré ?
Rien. Rien du tout.
Le contrat avec Gosslitisdat pour le docteur Jivago, tu vas le signer ?
On peut toujours rencontrer Kotov. Mais c'est une perte de temps.
Fais pas de bêtises. Polikarpov est dangereux. C'est un ancien de la Tchéka.
Staline me terrifiait. Dmitri Polikarpov ne me fait pas peur.
Je t'en supplie, chérie, ne le défie pas. Il va pas s'arrêter là. Bon, rentrons, j'ai froid.
Octobre 1956. À Budapest, des centaines de milliers de Hongrois se soulèvent contre le pouvoir unique du Parti communiste et exigent des réformes. Leur insurrection est rapidement écrasée dans le sang par les chars soviétiques. Quelques semaines auparavant, en URSS, le comité de rédaction de la revue Novy Mir a refusé officiellement de publier le docteur Jivago. Dans sa datcha à Peredelkino, Boris Pasternak montre à son ami, l'écrivain Corneille Tchoukovski, la longue lettre qu'il a reçue de la revue littéraire.
L'esprit de votre roman, c'est un esprit de refus de la révolution socialiste. Le contenu émotionnel de votre roman, c'est l'affirmation que la révolution d'octobre, la guerre civile et les changements sociaux qui en ont résulté n'ont rien apporté au peuple russe, sinon des souffrances, et ont anéanti l'intelligentsia russe. Alors, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein.
Il y a au moins 30 pages dans le même style. Je me sens un peu coupable de les avoir autant fait travailler. Non, pour eux, mon roman, c'est un navet réactionnaire qui exprime le point de vue d'un individualiste bourgeois plein de rancœur.
Et ils se sont mis à cinq pour rédiger ce torchon.
Et notre ami Fédine est l'un d'eux.
Incroyable. Constantin m'a dit la semaine dernière qu'il avait adoré ton roman. Il le trouvait génial.
Quel faux cul.
Tu comptes vraiment faire publier Jivago en Italie?
J'ai fait parvenir mon manuscrit aussi en Pologne, en Angleterre et en France.
Tu es fou. Tu es en train de creuser ta propre tombe.
Jivago, c'est mon ultime bonheur et ma folie. Je ne peux plus faire marche arrière. Ce roman ne m'appartient plus. Il va conquérir le monde entier.
Du temps de Staline, on t'aurait déjà liquidé.
Peut-être pas. Je me méfie davantage de Khrouchtchev. Tu as vu ce qu'il a fait à Budapest?
Oui.
Ce beau parleur a enfin montré son vrai visage. Le dégel est fini.
La soumission de ces rédacteurs au pouvoir politique me donne envie de vomir. Un homme enchaîné idéalise toujours son esclavage. Je me suis tué toutes ces années, maintenant ça suffit. Mon roman était un devoir intérieur. Je devais décrire la Russie telle qu'elle est. Je ne pouvais plus fermer les yeux sur toute cette terreur. Il fallait dire que la collectivisation a été une faute. Un échec. Les révolutions durent des semaines, des années, puis, pendant des dizaines et des centaines d'années, on adore comme quelque chose de sacré cet esprit de médiocrité qui les a suscités. Ils n'ont rien compris au roman. Ils n'ont pas saisi que c'était une symphonie, un chant à la gloire de la vie, de l'amour et de la résurrection. Oui, je suis coupable d'avoir écrit avec conscience et dignité. Je suis coupable d'avoir voulu rendre mon peuple à son histoire. Le peuple est mort. J'ai écrit Jivago pour qu'il se réveille.
Janvier 1957. Boris Pasternak signe un contrat avec les éditions d'État Gosli Dizdat pour publier une version remaniée du docteur Jivago en URSS. Informé, Feltrinelli retarde la publication italienne de 6 mois jusqu'à la sortie de l'édition soviétique prévue en septembre. En coulisses, le Kremlin demande au Parti communiste italien de faire pression sur Feltrinelli pour qu'il restitue le manuscrit. L'éditeur refuse de le rendre, même quand Palmiro Togliatti, le secrétaire général du parti, le lui ordonne. Affaibli par une inflammation au genou, Pasternak est hospitalisé de mars jusqu'au début de l'été. De retour à Peredelkino début août, l'auteur est convoqué d'urgence au bureau de Dmitri Polikarpov.
Boris Leonidovitch, la revue polonaise Opinie vient de publier des extraits du docteur Jivago. C'est très grave. Leur avez-vous remis une copie de votre manuscrit?
Non.
Comment cette revue s'est-elle procurée votre manuscrit?
Je n'en sais rien.
À part Feltrinelli, à qui avez-vous remis des copies de votre manuscrit?
J'ai passé plus de 5 mois à l'hôpital, je n'ai donné mon manuscrit à personne.
Ne jouez pas ce petit jeu avec moi.
Mais...
il y a des règles à respecter. Êtes-vous un écrivain ou un traître?
Qu'insinuez-vous au juste?
Comment pouvez-vous aimer si peu votre patrie? C'est lamentable. Veuillez signer ce papier.
Qu'est-ce que c'est?
Un télégramme. Tenez.
Monsieur Feltrinelli, j'ai commencé à réécrire le docteur Jivago. La version en votre possession nécessite des remaniements. Il n'est pas possible de la publier sous sa forme actuelle. Veuillez avoir la gentillesse de me renvoyer le manuscrit. Non, 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 je ne signerai pas ça.
Dans votre intérêt, signez ce télégramme.
Dans mon intérêt.
Et celui de votre amie, Olga Ivinskaya. Je vous laisse 2 jours. Après, c'est la prison.
Боря, tu dois signer ce télégramme.
Non, je ne me laisserai pas intimider. La prison ne me fait pas peur.
Mais il y a pire que la prison. Tu comprends pas, ils vont nous tuer.
Oh, ne dis pas n'importe quoi.
Monsieur D'Angelo, expliquez-lui, il veut rien comprendre.
Olga a raison. Vous devez vous protéger.
Et le roman.
Montrez-moi ce télégramme.
Mais il est écrit en russe?
Oui. Et alors?
Vous avez convenu avec Feltrinelli que seuls vos messages rédigés en français seraient valables.
Feltrinelli ne croira jamais à l'authenticité de ce télégramme.
Il ne renverra pas le manuscrit. Ce bout de papier n'a aucune importance. Signez-le.
Vous en êtes sûr? Le roman doit à tout prix être publié.
Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il est trop tard pour arrêter sa publication.
La publication du docteur Jivago n'est plus qu'une question de jours en Italie. Quel bonheur, quelle victoire. Je serai sans doute puni. Difficile de savoir quel sera le prix à payer. Olga ne dort plus la nuit, l'idée qu'on nous sépare à nouveau la terrifie. Olia, je t'aime à la folie, je t'aime plus que tout au monde. Tu es ma Marie Stuart. Tout en elle est vie, liberté. Ni la douleur broyant son sein, ni les voûtes de sa prison n'ont pu briser cette âme fière. Olia, tu es la quintessence de l'amour, de la passion. Tu es la beauté victorieuse. Tu as la résistance et la force de Lara, la femme qui illumine tout mon roman.
Le 22 novembre 1957, Il Dottore e Zivago paraît en Italie. Le livre connaît un succès immédiat en l'espace de quelques mois. Il est bientôt traduit en 23 langues. L'édition soviétique, qui devait paraître en septembre, n'a pas été publiée. Très vite, une mystérieuse édition en russe du docteur Jivago commence à circuler en Europe. En septembre 1958, lors de l'exposition universelle de Bruxelles, les visiteurs soviétiques découvrent avec stupeur, sous une couverture bleue luxueuse, le roman de Pasternak distribué au stand du Vatican. Le livre entre bientôt clandestinement en URSS. Cette version pirate a été imprimée par la CIA. À l'insu de son auteur, en pleine guerre froide, le docteur Jivago est devenu une arme de propagande politique.
Dit Corneille, tu es au courant? Une version de Jivago éditée en russe circulerait en Europe.
Oui, on peut l'acheter aussi à Moscou. 300 roubles au marché noir.
Quoi? Qui est derrière cette édition?
Je n'en sais rien. Sans doute une organisation d'émigrés russes.
Mais comment ont-ils mis la main sur mon manuscrit?
Demande à tes éditeurs, ils ont sûrement la réponse. J'imagine que Polikarpov n'est pas ravi.
Le comité central observe un silence étonnant. Je m'attendais à finir en prison, ils ne m'ont rien fait. Les autorités m'ont juste proposé d'aller m'installer à Bakou pour écrire un roman à la gloire des ouvriers du pétrole. Mais oui.
Tu écris en ce moment?
Rien de nouveau. Je passe mon temps à répondre aux lettres de félicitations que je reçois du monde entier pour Jivago. La poste m'en apporte plus d'une cinquantaine par jour.
De quoi occuper le KGB?
Olga n'arrête pas de dire que je perds mon temps.
Tu sais que ton nom circule pour le Nobel.
Le Nobel, foutaise. Je te parie que c'est Alberto Moravia qui l'aura.
Ne prends pas ça à la légère. J'ai surpris une conversation à l'Union des écrivains. Il demandait au comité central quelle serait la position à adopter si tu le recevais. Ça ne laisse présager rien de bon.
Tchoukovski, l'ami de Pasternak, a vu juste. Le 23 octobre 1958, l'Académie royale de Suède décerne le prix Nobel de littérature à Boris Pasternak pour ses importantes réalisations dans le domaine de la poésie lyrique contemporaine et dans celui de la tradition épique russe. Le Kremlin perçoit cette récompense comme une provocation de l'Occident contre l'Union soviétique. toutes les instances de l'État se préparent à prendre des mesures pour forcer Pasternak à refuser le prix Nobel. Dans la soirée, le poète réunit quelques amis dans sa datcha pour célébrer l'événement. Ils boivent du champagne quand brusquement, le voisin de Pasternak, le romancier Constantin Fédine, fait son apparition.
Eh, Constantin, tu arrives au bon moment. Je te sers une coupe.
Non, merci. Boris, je dois te parler en privé.
Maintenant.
Oui, ça ne peut pas attendre.
Tu veux vraiment rien? Du champagne, une vodka?
Allons dans ton bureau.
Suis-moi.
Je ne suis pas venu te féliciter. Polikarpov est chez moi, il m'a chargé de te transmettre ce message. Tu dois refuser le prix Nobel.
Quoi?
Envoie un télégramme à l'Académie de Stockholm, dis-leur que tu le refuses.
C'est hors de question.
Écoute, tu le sais très bien, ce prix t'a été attribué pour des raisons politiques. C'est un acte hostile envers notre patrie.
À travers moi, ce prix est décerné à toute la littérature soviétique. Pourquoi notre nation devrait-elle être privée de cet honneur?
Si tu ne refuses pas le Nobel, ils te détruiront, Boris.
Mais le monde entier me regarde. Le comité central n'osera pas me toucher.
Est-ce que tu peux être naïf? Tu n'as vraiment pas idée de ce qu'ils vont te faire.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça m'est égal.
Je t'aurais prévenu. Tu as 2 heures. Réfléchis bien.
Imposteur. Parasite. Espion capitaliste. Pasternak est un individu perverti et dégénéré. Il calomnie le peuple russe et sa grande révolution dans toutes les langues. Pasternak mérite le châtiment le plus sévère. Il est pire qu'un ennemi, c'est un abcès purulent et les abcès, on les extirpe à la racine. Depuis une semaine, Radio Moscou, la Pravda, la Gazette littéraire, toute la presse me crache dessus. Même la population est indignée par ce roman que personne n'a lu. Les lettres d'insultes et de menaces affluent à Peredelkino. La foule va sûrement venir saccager la maison. L'Union des écrivains a jugé que mes actes étaient incompatibles avec le titre d'écrivain soviétique. Ils m'ont exclu, chassé comme un moins que rien. Je ne pourrais plus rien publier. Ils m'ont coupé les vivres.
Alors, tu as envoyé le télégramme?
Oui, je l'ai envoyé hier.
Qu'est-ce que tu as écrit?
Tiens.
En vue de la signification attachée à cette récompense par la société dont je fais partie, je suis dans l'obligation de refuser ce prix immérité qui m'a été attribué. Ne prenez pas en offense mon refus, décidé en toute liberté.
Tu regardais la télévision?
Oui. Vladimir Semichasne, le responsable des jeunesses communistes, est en train de prononcer un discours.
Monte le son, s'il te plaît.
Cet individu a craché au visage de notre peuple. Même un porc ne vit pas là où il mange, ni là où il dort. Pourquoi ne serait-on pas respirer à cet émigré de l'intérieur l'air capitaliste qui lui manque tant et qu'il défend dans son roman? Qu'il devienne donc un émigré pour de bon et qu'il parte pour son paradis capitaliste.
Mon Dieu, quelle diatribe immonde. Ils veulent te retirer la nationalité maintenant.
J'arrive plus à respirer. S'ils veulent ma mort, j'ai suffisamment de non-butal chez moi pour en finir. Polia, tu veux partir avec moi?
Dis pas de bêtises. Ne leur fais surtout pas ce cadeau. Ils n'attendent que ça, ces salauds. Constantin?
Tiens, Olga, que me vaut l'honneur de ta visite?
Je voulais t'informer que Boris a envoyé un télégramme à l'Académie de Stockholm. Il refuse officiellement le prix Nobel. Transmets l'information à Polikarpov et cessez de persécuter Boris.
Malheureusement, je ne crois pas que cela suffise pour Polikarpov.
Quoi? Il compte aller jusqu'où? Il tient vraiment à l'expulser de l'Union soviétique? Il veut sa mort? Vous l'avez poussé à bout. Boris parle de se suicider.
Surveille-le, il faut absolument l'empêcher de commettre une nouvelle stupidité. Je suis persuadé que Polikarpov stoppera sa campagne si Boris demande publiquement pardon.
Demander pardon? Mais vous voulez qu'il avoue une faute qu'il n'a pas commise? Il va quand même pas s'excuser d'avoir du talent.
Son talent ne lui permet pas d'insulter l'Union soviétique.
Quelle mascarade, mais vous ne l'avez pas suffisamment humilié? À qui doit-il demander pardon?
Je vais contacter Polikarpov.
Constantin, regarde-moi en face. Tu n'as pas honte?
J'avais prévenu Boris, il n'a pas voulu m'écouter. Cette tête de mule se croit tout permis. Il fallait le remettre à sa place.
Le parti peut vraiment compter sur toi. Quelle servilité! Tu sais qu'on parle de toi comme prochain responsable de l'Union des écrivains? Ils vont bien te récompenser.
Le 31 octobre 1958. Cher Nikita Sergeyevitch, je m'adresse à vous personnellement. J'ai appris que le gouvernement ne ferait aucun obstacle à mon départ de l'Union soviétique. Pour moi, cela est impossible. Je suis lié à la Russie par ma naissance, ma vie et mon travail. Quitter ma patrie équivaudrait pour moi à la mort. C'est pourquoi je vous prie de ne pas prendre à mon égard cette mesure extrême. Je peux dire, la main sur le cœur, que j'ai fait quelque chose pour la littérature soviétique et que je peux encore lui être utile. En écrivant à Khrouchtchev, j'ai l'impression de vendre mon âme. Je devrais plutôt me torcher les fesses avec cette lettre. Le comité central m'a envoyé une infirmière à domicile. Elle est là, soi-disant, pour mon bien et refuse de partir. Elle va sûrement mettre des micros partout. On me surveille en permanence. Il y a une voiture noire en face de chez moi. Dehors, je suis constamment suivi. Même mon ombre commence à me faire peur. Ma maison est devenue une prison. Une prison sans barreaux.
2 novembre 1958. La Pravda a publié la lettre que Boris Pasternak a adressée au premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev. Dans la presse et dans la rue, les manifestations hostiles à Pasternak se poursuivent. Le lendemain, une voiture noire vient chercher le romancier à Peredelkino et le conduit au siège du comité central à Moscou.
Bonjour Boris Leonidovitch.
Ah, c'est vous? Je pensais rencontrer Khrouchtchev.
Désolé de vous décevoir. Je serai votre unique interlocuteur.
Pourquoi m'avez-vous convoqué, Polikarpov? Vous avez ce que vous vouliez, non? Cette comédie n'a pas assez duré.
Votre lettre au camarade Khrouchtchev était parfaite. Vous finissez par avaler votre fierté. Vous rentrez dans le rang. C'est bien.
Si vous m'avez fait venir pour me narguer et m'insulter, autant m'en aller tout de suite.
Restez assis. Je n'en ai pas encore fini avec vous.
Qu'est-ce que vous voulez?
Le peuple est en colère.
Pardon?
Vous avez provoqué la colère du peuple.
Mais c'est vous qui avez tout orchestré. Je n'ai jamais insulté le peuple russe. Comment peut-il critiquer et condamner un livre qu'il n'a pas lu?
Vous devez vous réconcilier avec le peuple, Boris Leonidovitch.
Pourquoi, vous voulez que je demande également pardon au peuple?
Oui. Dans une lettre que nous publierons dans la Pravda.
Vous voulez que je me déculotte devant tout le monde?
Coopérez, et tout finira par s'arranger.
Et après? Je retrouverai ma place au sein de l'Union des écrivains?
N'allons pas trop vite. Chaque chose en son temps.
Comment vais-je faire pour travailler?
Rédigez d'abord cette lettre et après nous verrons.
C'est tout?
Une dernière chose. Ne recevez plus de journalistes chez vous. Arrêtez votre correspondance avec vos amis étrangers. Faites-vous oublier.
Pasternak échappe à l'exil. Surveillé de près par le KGB, il vit reclus dans sa datcha à Peredelkino. En février 1959, lors du voyage en URSS d'Harold Macmillan, le premier ministre du Royaume-Uni, le poète est contraint de quitter Moscou pour Tbilissi en Géorgie afin d'éviter tout contact avec les journalistes occidentaux. Exclu de l'Union des écrivains,
il ne peut plus exercer de travail rémunéré ni percevoir ses droits d'auteur. Sa vie matérielle devient très précaire. Il survit difficilement grâce à quelques amis qui le soutiennent financièrement. Ses maisons d'édition à l'étranger lui font également parvenir clandestinement un peu d'argent. Les persécutions du régime auront bientôt raison de sa santé. En avril 1960, le poète fait un infarctus. Les médecins diagnostiquent également un cancer au poumon avec des métastases au foie. Boris Pasternak refuse de se faire hospitaliser et reste alité chez lui.
Dans mon rêve cette nuit, je flottais dans le ciel. J'allais chez toi, Olia. Je ne te reverrai plus, mon ange. Pardonne-moi, je n'ai plus la force de me lever. Adieu, Lara. Adieu, ma beauté. Adieu, ma joie insondable, inépuisable, éternelle. Je ne te reverrai plus, plus jamais de ma vie. Tout va aller vite maintenant. La mort me guette, je sens son souffle glacé sur mon visage. Quelle délivrance. Sois honnête dans ton art et tes ennemis resteront impuissants contre toi. Tu te rappelles, papa, c'est ce que tu avais l'habitude de dire. Moi, je n'ai pas su me protéger de la sauvagerie qui règne en Russie. Ils m'ont crucifié. Mais je peux mourir en paix. Le docteur Jivago me survivra. Il connaîtra un destin plus glorieux que le mien. Le gouvernement n'a pas accordé de visa à Lydia. C'est leur dernière punition, empêcher ma sœur qui vit à Oxford de venir à mon chevet. Je n'ai aucun regret. Je sais que l'avenir me vengera de toutes ces humiliations. Je ne te retiens pas. Bonté advienne. Va aux autres. Werther n'est plus à faire. Et de nos jours, la mort imprègne l'air. Ouvrir la vitre, c'est s'ouvrir les veines.
Boris Pasternak et son combat pour le docteur Jivago de Marc Elfer, avec Boris Pasternak, Clément Bresson, Sergio D'Angelo, Guillaume Bachelet, Olga Ivinskaya, Claire Sermon, Polikarpov, Joachim Salinger, Tchoukovski, Grégoire Mont-Saint-Jean, Fédine, Julien Egerix, Brutage, Elodie Fiat, prise de son montage et mixage, Étienne Collin et Antoine Viossa, assistante à la réalisation, Céline Schaeffer, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On continue dans quelques minutes de parler de Boris Pasternak et du docteur Jivago avec mon invitée Hélène Henry. Mais on écoute d'abord Clara Isée, On s'aimera.
Chasse la tristesse de ce regard. Depuis quelques jours, je te sens hagard. Est-ce que tu la sens venir la fin de notre histoire? Si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux garder ton amour et qu'épare comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, je crois qu'on se retrouvera. Pleine d'espoir, tout ce que tu donnes sans le savoir, et la façon dont tu rêves le soir. Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux protéger notre histoire comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera. Yeah. et moi entre ses bras. Peut-être que plus vaste on sera, alors on s'aimera. On se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera.
Un jour, on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Hélène Henry, Boris Pasternak est mort le 30 mai 1960, donc 2 ans après son Nobel. On a l'impression qu'il s'est laissé mourir un peu.
Pas tout à fait. Pasternak était un homme d'une énergie exceptionnelle. Et après l'affaire Jivago, il a été bien entendu désespéré que ses livres ne sortent pas chez lui, hein, dans son pays. Mais il a continué à travailler. Il a commencé un grand drame sur la condition des comédiens serfs. Il a poursuivi une immense correspondance avec toutes sortes de gens, non ?
Donc on ne peut pas dire que ce sont les persécutions, les insultes, les humiliations qu'il a subies qui ont contribué à sa mort ?
Ça l'a brisé, mais Pasternak avait eu l'habitude dans sa vie de subir des coups et encore des coups. Et il s'en était toujours remis, toujours relevé, même lorsqu'il avait eu un gros infarctus en 1952.
Dans la campagne de haine donc, qui a été menée contre lui par le pouvoir soviétique, il y a 2 choses. Il y a d'abord le livre et il y a le Nobel. En ce qui concerne le livre lui-même, est-ce que ce livre est une critique plus ou moins ouverte de l'Union soviétique ? Qu'est-ce qui dérangeait dans ce livre autant ?
Alors, je peux dire ce que la rédaction de Novy Mir lui a reproché de façon très, très explicite. En fait, la lettre du comité de rédaction de Novy Mir, donc écrite en septembre 56 et publiée 2 ans plus tard, s'en prend principalement au personnage de Jivago, c'est-à-dire à cet intellectuel plein de charité, plein de sympathie, plein d'élan envers la Révolution, qui, dès que la Révolution arrive avec ses privations, ses difficultés, le diffus, etc., ne veut plus entendre parler de politique, se retire et devient ennemi du peuple, entre guillemets.
Donc, le docteur Jivago n'est pas un héros soviétique.
Voilà, le docteur Jivago n'est pas un héros positif. À la façon du héros positif à qui il arrive de fléchir un peu, mais qui se remet immédiatement et qui revient dans la ligne de la construction du socialisme. C'est-à-dire qu'on ne peut référer le docteur Jivago ni vraiment au grand roman russe du 19e siècle. C'est pas vraiment un roman tourguignévien ou tolstoïen, mais ça n'est surtout pas un livre de réalisme socialiste.
Oui, qui avait d'ailleurs
été condamné de façon extrêmement moqueuse par André Sinievski, quand il disait « Le réalisme socialiste, mais c'est du fantastique ».
On a dit beaucoup que le docteur Jivago tenait beaucoup de Tchekhov, qui était plutôt un auteur de théâtre, enfin qui a écrit des nouvelles aussi, mais qu'il y avait des ressemblances entre ces 2 auteurs.
Pasternak, mais comment dire, donne comme écrivain de référence, dans Jivago même, ce sont Pushkin et Tchekhov. Mais il ne s'ensuit pas que les héros de Jivago aient à voir avec les héros de...
C'est peut-être dans la manière de les traiter, justement, mais c'est dans l'humanité des personnages.
Oui, c'est dans la façon que l'auteur a d'envisager ces personnages dans la grandeur de leur quotidien. C'est ça qu'admire immensément Pasternak et qu'il trouve beaucoup plus que chez Dostoïevski ou même sans doute chez Tolstoï, puisqu'il n'en parle pas, chez Pushkin, chez Tchekhov et chez Dickens. Puisque une des références aussi de Pasternak, c'est Dickens. Et puis, une grande référence, c'est bien entendu Shakespeare.
Est-ce que ce livre, le docteur Jivago, est une critique de l'Union soviétique, de la révolution bolchevique ?
C'est un constat plutôt qu'une critique. C'est un constat du fait que cette immense espérance qu'avait partagée Pasternak lui-même a eu des conséquences de plus en plus désastreuses au fur et à mesure que les années ont passé. En effet, en 1932, Pasternak est allé dans l'Oural où il a pu constater les effets du grand tournant, hein, de la collectivisation, hein, la misère, la famine, etc.
En tout cas, dans le docteur Jivago, Pasternak parle du goulag à sa manière à lui, à travers l'évocation d'une femme aimée. Donc c'est Lara, un des personnages que l'on a suivi tout le long du roman et qui tout à coup disparaît anonymement sans laisser de traces. Je vous lis le passage tel que vous l'avez traduit, Hélène Henry. Un jour, Larissa Fyodorovna quitta la maison et n'y revint pas. Sans doute avait-elle été ce jour-là arrêtée dans la rue. Il est probable qu'elle mourut ou disparut, on ignore où, oubliée sous un matricule anonyme, sur une liste ensuite perdue, dans l'un des innombrables camps de concentration du Nord, mixtes ou réservés aux femmes. Ces camps, c'est le goulag.
Bien entendu, c'est le goulag. Et cela se passe à la mort de Jivago, juste après la mort de Jivago, c'est-à-dire en 1929-1930, qui était déjà une époque carnivore, hein, puisque c'est le moment où les écrivains commencent à être vraiment très inquiétés.
Et Boris Pasternak lui-même n'a pas été menacé de partir au goulag après le docteur Jivago. Est-ce que c'est le fait qu'il ait eu ce Nobel qu'il a à la fois fragilisé et en même temps qu'il a peut-être protégé, parce que Olga, elle, va retourner au goulag.
En 60, oui. Mais on n'était plus en 1929.
Hein. Ça existe encore, le goulag.
Voilà. On n'était plus non plus en 1935 et surtout pas en 1937 ou 38. C'est-à-dire que à ce moment-là, on pouvait en effet emprisonner, on pouvait humilier, on pouvait injurier, on pouvait même priver de la nationalité. Ça n'arrivait pas encore beaucoup. Mais on pouvait... On chassait pas encore beaucoup, mais Pasternak était le premier, quasiment, qu'on a menacé de le chasser d'Union soviétique.
Ça, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Et ce qui arrivera à Solzhenitsyn des années plus tard.
C'est ce qui arrivera à Solzhenitsyn, ce qui arrivera à Efimetkin.
Et il faudra attendre la perestroïka de Gorbatchev pour qu'enfin, en 1988, donc c'est extrêmement tardif, le docteur Jivago soit édité pour la première fois en Russie.
Oui, le docteur Jivago n'a été édité, il a été publié justement dans ce fameux Novy Mir, Nouveau Monde, hein, la revue, qu'en 1988. Et une édition complète a été établie par Eugène, le fils de Pasternak, et il a paru en volume l'année suivante.
Pour terminer cette émission, Hélène Henry, je vous propose d'écouter un peu la voix de Boris Pasternak. Il s'exprime en français, c'est en 1958, l'extrait d'une dédicace qu'il adresse à un artiste français.
De la grandeur avant toute chose. L'art en est le langage, l'expression. La sublimité manifestée avec désinvolture, nonchalamment, voilà qu'est la beauté. Il faut être grand, il faut le naître ou le savoir apprendre. On l'apprend par une vie pleine de bonté prêtée aux autres et éprouvée de leur part.
Il faut de la grandeur, du sublime et de la bonté. C'est un beau message, Pasternak.
Oui, c'est un très très beau message de Pasternak. Pasternak, je pourrais ajouter une autre formule de Pasternak, hein, qui dit que le fabuleux, c'est le quotidien. Hein. La vie toute simple, c'est ce qui est magique.
Merci beaucoup Hélène Henry. Alors, s'il y a une lecture à recommander, c'est bien sûr avant tout celle du docteur Jivago en russe pour ceux qui y peuvent. Sinon, dans la nouvelle traduction en français, donc établie par vous en 2023, Hélène Henry, je suis en train de la lire, d'ailleurs c'est une petite merveille, je pèse mes mots. Elle est disponible chez Gallimard en collection blanche, mais aussi en format de poche, en collection folio, à partir du 3 avril. C'est C'est la fin pour ce soir d'Autant en emporte l'histoire. Cette émission était réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Nicolas Delmas. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant en emporte l'histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires, comme toujours avec plaisir et impatience, sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous reviendrons en France sous le règne de Louis-Philippe, lorsque le jeune dessinateur Honoré Daumier réalise des caricatures féroces et drôlissimes du souverain en Gargantua avec une tête en forme de poire. Mais la censure veille. Ses dessins vaudront à Daumier 6 mois de prison ferme. Honoré Daumier, un caricaturiste de génie au service de la liberté, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.